Alors, je vais me tourner un peu vers Sabine, parce que j'ai quand même 25 ans que je n'ai pas prêché avec Sabine dans la salle. Je suis très content de te revoir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ces rencontres, tous les 25 ans, 4 fois par siècle, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça. Ça nous rappelle la fidélité de Dieu et qui vient de bien des siècles et qui va se poursuivre encore pendant bien des siècles, si Dieu le veut. Et je trouve que c'était ce que tu nous as dit tout à l'heure, ça fait vraiment des chauds au cœur et ça nous encourage à continuer. Qu'est-ce que tu as dit, l'Église n'est pas si pleine que ça aujourd'hui. Des fois, elle est encore bien plus pleine que ça, tu sais. C'est plein jusqu'en haut, là, comme ça. Voilà. Alors, les prédicateurs ont chacun leur truc, si j'ose dire, pour savoir de quoi ils vont parler. Alors moi, j'ai dans mon smartphone, dans les notes, là, une rubrique qui s'appelle « Idées prédication ». Et puis, au fur et à mesure que je fais des lectures, que j'entends des choses, alors je note des trucs dedans. Et puis, des fois, ça fait tilt. Et quand je sais que je vais prêcher, je vais regarder là-dedans. Je vois si c'est... Et puis, c'est des fois dans ces thèmes-là que vient l'inspiration. Et puis, d'autres fois, c'est autre chose. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je trouve qu'il y a un certain nombre de remarques qui ont été faites pendant le début de ce culte qui matchait bien avec ce que j'avais pensé. Et c'est deux versets, un qui est dans la Genèse, où au moment de la chute, vous savez, Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrirent. À un moment, hein, ils ont... Le serpent leur dit, si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux. Et après, leurs yeux s'ouvrirent. Et puis, les mêmes versets qu'on trouve tout à fait dans autre chose, dans la fin de l'évangile de Luc, où les pèlerins d'Emmaüs, ils étaient, tout d'un coup, il est dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et voilà, c'est ça qui a un petit peu mené ma réflexion. Ça veut dire quoi, avoir les yeux ouverts? Ouverts pourquoi? Ouverts sur quoi? Et je voudrais commencer en lisant cette adresse de Paul aux Éphésiens. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Paul dit, c'est pourquoi, et ça peut aussi être, je crois, entendu par chacun d'entre nous, comme si je parlais de la part de l'apôtre Paul, qui lui parlait de la part de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et Sabine a parlé de la fidélité, de la foi qui anime cette Église, je ne cesse de rendre grâce pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et des paroles qui ont déjà été rappelées ce matin. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Je vous propose juste de prier. Seigneur, que ces paroles soient vraiment pour nous, que tu puisses... remplir notre cœur de toute cette promesse, de tout ce que nous lisons dans ta parole, que vraiment nos yeux puissent être ouverts sur toi. Alors pour chacun lire, relire ces textes, pour moi c'est en tout cas une question qui se repose à chaque fois. Est-ce que je suis dans la bonne attitude pour que mes yeux soient ouverts, pour qu'ils puissent illuminer les yeux de mon cœur, comme dit ce texte, ou selon d'autres traductions, qu'il ouvre mon cœur, ça c'est la tobe je crois, ou alors qu'il ouvre mes yeux. Et on revient au thème que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est dans la Bible en français courant. Tiens, en passant, il y a une nouvelle version de la Bible en français courant, j'ai vu ça. Elle est déjà à équilibre, j'espère. Oui, voilà. Donc, si vous voulez une version encore plus courante que la Bible en français courant d'il y a quelques années, précipitez-vous à équilibre. Ouvrir nos yeux. Et derrière, la richesse qui nous est promise. Richesse parce que nous allons découvrir beaucoup de choses, parce que nous découvrons tout ce que Dieu a pour nous. Déjà, le psalmiste, David peut-être, sans doute, mais c'est pas noté au début du psaume 119, disait « Ouvre, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et je crois que Sabine nous a dit quelque chose comme ça tout à l'heure. L'essentiel est de plonger nos regards dans la parole de Dieu, que nos yeux puissent être ouverts, et alors nous découvrirons tout ce qu'il a en réserve pour nous. Donc, au début de ce message, c'est ça la question que je me pose à moi autant qu'à vous. Est-ce que c'est notre désir et est-ce que c'est sur ce chemin-là que je veux m'engager? Alors, je vais illustrer cela avec un premier exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 27. Comme Jésus partait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles, qui étaient toujours là, s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-il. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Petit texte, hein, il y a beaucoup d'autres récits de guérison de ce type-là dans les évangiles, peut-être relatant les mêmes faits ou d'autres faits, peu importe. Quelques détails qui arrêtent mon attention. D'abord, c'est étonnant que Jésus leur dise « Surtout n'en parlez pas ». Pour quelle raison? Je pense que la raison, c'est simplement par rapport aux règles rituelles de l'époque, hein, quand il y avait des choses comme ça qui se passaient, ça demandait le contrôle des prêtres pour vérifier qu'il y avait bien eu guérison. C'est un peu la même chose que les miracles à Lourdes ou dans l'Église catholique, hein, il y a tout un processus pour reconnaître si oui ou non l'Église admet qu'il y a eu miracle ou pas miracle, quelque chose comme ça. Ou quand Jésus guérit les 10 lépreux, vous savez, 10 lépreux qui viennent le voir, c'est dans Luc au chapitre 17, et puis il dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Donc il les engage à respecter. Et donc la question d'ailleurs que Jésus pose, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Je ne suis pas sûr que ce soit « Croyez-vous que j'ai la puissance de faire cela ?» Mais plutôt « Croyez-vous que j'ai le droit de faire ça ?» Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'on fait ça? Parce que là, si je fais ça, vous allez vous-même vous mettre en porte-à-faux par rapport à la loi. Mais pour les aveugles qui étaient là, il n'y avait pas de question. Ils étaient aveugles, ils savaient que Jésus avait la capacité de le faire. Et donc, oui, ils disent « Oui, Seigneur, vas-y, guéris-nous, nous en avons besoin. » Parce que la situation de ces deux personnes, ces deux aveugles, ils avaient les yeux fermés, ils avaient besoin que leurs yeux s'ouvrent et que soit enlevé en même temps l'isolement, le rejet par la société, la souffrance que cela entraînait, peut-être un peu le poids de leur vie, comme Arnaud nous le rappelait tout à l'heure. Et quand Jésus les guérit, puisqu'il dit « si, on prend le risque d'être guéri, même si ce n'est pas conforme au règlement et à la loi telle qu'elle doit être appliquée », ils vont aussitôt le dire à tout le monde. Il faut que ça se sache. Leur vie est transformée, il faut que ça se sache, et ils vont répandre sa renommée dans le pays entier. Et puis, si vous lisez un peu plus loin, vous verrez que la réaction ne se fait pas attendre, et que la tension entre Jésus et les autorités monte d'un cran encore suite à un miracle de ce type-là. Alors voilà la question qui se pose par rapport à cette idée d'avoir les yeux ouverts. Qu'est-ce qui nous rend aveugles, nous? Qu'est-ce qui nous aveugle? Qu'est-ce qui, dans nos vies, fait qu'on a du mal à voir le Seigneur, a du mal à voir ce qu'il a en réserve pour chacun de nous, du mal à voir peut-être le chemin qu'il nous propose de prendre et sur lequel on a du mal à s'engager? Est-ce que nous n'avons pas confiance que si nous allons là où il nous engage à aller, alors toutes ces richesses, toute cette puissance qui nous était décrite dans le premier texte que j'ai lu dans les Éphésiens sera pour nous également? Sommes-nous prêts à la transformation? Sommes-nous prêts à être vraiment, avoir les yeux ouverts sur ce que Jésus attend de nous? Le deuxième texte que je vous propose de lire, c'est dans l'évangile de Luc, dont je l'ai mentionné tout à l'heure. Un de ces deux textes qui ont un peu arrêté ma réflexion. Luc 24, c'est un texte qui est bien connu. Voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs. On les appelle les pèlerins d'Emmaüs. Éloignés de Jérusalem de 60 stades, ça fait entre 11 et 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, à savoir les événements de Pâques, avec la crucifixion de leur maître. Pendant qu'ils s'entretenaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc Jésus s'approche d'eux, il commence à parler, vous parlez de quoi, etc. Mais tu ne sais pas, etc. Et puis Jésus leur dit des choses, leur explique, Mais bon, ils prennent ça comme, voilà, c'est un voyageur comme nous, voilà son interprétation. Et puis au verset 28, lorsqu'il fut près du village, Jésus parut vouloir aller plus loin. Il le pressait en disant, reste avec nous, le soir approche. Alors Jésus entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais Jésus disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons. Là aussi, il y a des questions dans ce texte quand même, que j'espère vous avez en même temps que moi, qui sont arrivées dans votre esprit. Ces deux personnages, ils avaient côtoyé Jésus pendant 3 ans. En tout cas, ça a l'air d'être deux d'entre eux. Hein. Donc, c'est deux parmi tous ceux qui... Ils n'étaient peut-être pas dans le cercle le plus proche. Enfin, ils avaient quand même côtoyé plus ou moins Jésus pendant 3 ans. Comment se fait-il qu'ils ne le reconnaissent pas? Là aussi, qu'est-ce qui aveugle nos yeux? Qu'est-ce qui aveugle leurs yeux? Hein? Est-ce que c'est... Ils avaient des larmes dans les yeux? Est-ce qu'ils avaient tellement de soucis? Est-ce qu'ils étaient sombres? Est-ce que Dieu, simplement, avait besoin qu'ils fassent un chemin jusqu'au moment où leurs yeux allaient s'ouvrir? Dans la Bible, il est dit parfois, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Alors, on ne sait pas trop comment il a fait, mais on sait que du coup, il y a quelque chose. Et c'est Dieu qui fait que les chemins ne sont pas ceux que l'on aurait pu penser. Donc, qu'est-ce qui fait que leurs yeux n'ont pas réussi à reconnaître quelqu'un avec qui ils avaient quand même partagé pas mal de moments, de près ou de loin, pendant 3 ans? Et puis, l'inverse de cette question, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ils le reconnaissent? Jésus fait un geste rituel, il est l'invité, donc il prend le pain, il dit la prière de bénédiction, et puis il leur donne. Et là, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tout s'éclaire? Et tout le chemin qu'ils ont eu à faire prend tout son sens. Tout ce chemin pendant lequel Jésus leur avait expliqué, leur avait dit des choses. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures et qu'on ne comprenait rien, quoi? C'est ça qu'on aurait pu continuer la phrase. Et qu'on ne mettait pas les choses bout à bout. Et là, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent et ils comprennent tout ce que Jésus a voulu leur dire. Alors, la suite de la question tout à l'heure, qu'est-ce qui aveugle nos yeux? Et puis, quel chemin avons-nous besoin de faire pour arriver jusqu'au moment où, effectivement, nos yeux vont s'ouvrir? La vie de chacun est différente. Les aveugles, ils ont demandé, Jésus, rends-nous la vie. Jésus a fait un miracle, c'était presque... Pour utiliser les mots d'aujourd'hui, une conversion instantanée, quoi. C'était rapide. Et puis les deux autres, il a fallu qu'ils marchent pendant 11 ou 12 kilomètres. Donc même en marchant bien, ça fait quand même quelques heures, hein, pour ceux qui ont fait de la course à pied. 12 kilomètres en marchant, allez, ça fait entre 3 et 4 heures. Donc pendant 3 et 4 heures, ils ont marché, ils ont eu un chemin à faire, parfois pour nous aussi, pour nos proches, pour nos familles. On a l'impression parfois que c'est tellement long pour que les gens comprennent ce que Jésus a en réserve pour eux. Et oui, il y a un chemin qui doit être fait. Et puis Martine nous parle dans ses prières régulièrement de ses soucis et du poids de sa situation familiale. Il y a un long chemin peut-être à faire. On ne sait pas par où il passe. Qui sait à quel moment le Seigneur répondra. Et là aussi, quand leurs yeux s'ouvrent, la seule chose à faire qui a du sens pour eux, même s'il est tard, puisque c'était le soir, c'est de prendre leurs affaires et de repartir et de se retaper les 3 ou 4 heures de marche jusqu'à Jérusalem pour le dire aux autres. Ça ne peut pas attendre. La transformation est complète. Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre au travers de tout ce que nous vivons jour après jour, ce que le Seigneur attend de nous? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est dans la lecture de la Bible. C'est dans la fréquentation des réunions chrétiennes, mais c'est aussi dans les événements que nous vivons jour après jour, où le Seigneur est prêt à se révéler à nous, ou en tout cas à mettre sur notre chemin des indications et que nos yeux puissent s'ouvrir, pour que, même si beaucoup d'éléments dans notre vie nous empêchent de voir Jésus, nous rendent aveugles, même les choses les plus évidentes. Vous savez, quand j'habitais à Paris, il y avait un graffiti sur un mur dans une rue entre le métro Gobelin et puis là où j'habitais. Alors je suis passé devant des dizaines de fois. Il y avait cette phrase qui disait « Ce qui nous crève les yeux nous rend aveugles ». ce qui nous crève les yeux, ce qui saute à la figure, ce qui nous crève les yeux nous rend aveugles. Donc j'ai vu tellement de fois cette phrase en passant devant que je trouvais qu'il y a tellement de choses dans notre vie qui nous crèvent les yeux sur la réalité, sur les réalités profondes du monde dans lequel nous sommes, et pourtant nous restons aveuglés. Nous avons tellement de mal à ouvrir les yeux sur l'essentiel, à ouvrir les yeux sur ce qui peut modifier notre vie. Et c'est pour ça que pour Paul, l'apôtre Paul, c'était son chemin. Dans les Actes, à la fin des Actes, c'est au chapitre 26, il est devant le roi Agrippa, c'est juste avant qu'il soit emmené à Rome pour continuer à se défendre devant ceux qui l'attaquent. Et le roi Agrippa lui demande d'expliquer, de raconter sa conversion, quoi. Enfin, comment il est arrivé là où il est arrivé. Dans Actes 26, il dit donc, il raconte son chemin de Damas, comme on dit. Et ce que le Seigneur lui dit, « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, voici pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues. Je t'ai pris du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et qu'ils aillent annoncer ça. » Ça a été dit aussi dans une prière tout à l'heure, que non seulement nous puissions ouvrir les yeux et comprendre pour nous-mêmes, mais que nous ayons comme ces aveugles ou comme ces pèlerins d'Emmaüs, le désir d'aller et de parler, d'expliquer cela par nos vies, par nos paroles, par ce que nous allons être, que nos yeux ouverts puissent nous amener à nous engager. C'était aussi ce que le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 42, je ne vais pas lire ce texte, mais vous lirez aussi, il y a des textes qui disent un peu la même chose, où c'est notre rôle, c'est d'aller vers les gens pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils puissent comprendre les réalités dernières, les réalités qui sont derrière tout ce que l'homme prétend savoir, toute la connaissance que l'homme a accumulée au fil des siècles. Mais parfois, nos yeux s'ouvrent pas tout à fait comme il le faudrait, et c'est le deuxième texte qui était en parallèle dans ma réflexion première. Dans la Genèse, au chapitre 3, là aussi, ce récit, il dit récit mythique, il y a peut-être des gens qui ne vont pas aimer ce mot-là, mais ce récit qui, en tout cas, ça nous fait comprendre d'où vient le mal. C'est quoi qui fait que l'homme est habité par des penchants mauvais? Genèse 3, au verset 4, le serpent dit à la femme, « Quoi? Mais non, vous ne mourrez pas du tout. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Ah, intéressant. Et que vous serez comme des dieux, intéressant aussi, qui connaissent le bien et le mal. Alors bon, la femme dit que l'arbre était bon à manger, vous connaissez l'histoire, elle mange le fruit, certains disent la pomme, je ne sais pas si c'était une pomme, enfin peu importe. Et au verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Leurs yeux sont ouverts, quelles conséquences ! Voilà, encore cette histoire, ça commence par, comme on dit aujourd'hui, une fake news, ou comme Olivier Reber nous a dit, là, le mot en français, c'est infox, il paraît, hein, c'est comme ça qu'on dit. Parce que le serpent leur dit, mais si, vos yeux s'ouvriront, vous allez voir. Si vous mangez ce fruit, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, et vous connaîtrez le bien et le mal. Est-ce que c'est pas un peu l'attitude de l'homme, centrée sur lui-même. Voilà ce que je veux pour moi, que mes yeux s'ouvrent pour que je puisse atteindre telle ou telle situation. Vous allez devenir comme des dieux. Vous serez débarrassés de tout ce qui vous empêche d'accéder à ce niveau-là. Beaucoup des réflexions autour de nous, de notre société, sont comme cela. On a l'impression de maîtriser beaucoup de choses. On veut maîtriser tout ce qui se passe sur la Terre. Et pourtant... Ça n'est qu'illusion, c'est comme la suite de ces promesses que le serpent fait. Si, vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez tout comprendre. Vous pourrez prendre des exemples très actuels, je vais laisser à chacun la traduction dans les sujets qui le préoccupent en ce moment, pour voir est-ce que nos yeux sont vraiment ouverts et ouverts sur l'essentiel. Parce que c'est une vraie fake news, c'est-à-dire qu'il y a une part de vrai. Vos yeux s'ouvriront. Ben oui, au verset 7, on voit que leurs yeux s'ouvrirent. Par contre, est-ce qu'ils sont devenus comme des dieux? Non, ils se sont juste vus qu'ils étaient tout nus. C'est ça la conséquence. Déception quand même. Et quand l'être humain marche tout seul et qu'il pense être seul capable d'ouvrir les yeux par sa connaissance, par sa réflexion, par je ne sais quelle manifestation ou autre chose, il s'aperçoit souvent qu'il est surtout tout nu et que par lui-même, il ne va pas réussir à résoudre les questions qui le taraudent. À quoi regarder Adam et Ève? À eux-mêmes. Leur désir était de devenir comme des dieux. Et ils se sont regardés le nombril. Et à force de regarder son nombril et d'être personnel et pour soi-même, on finit par s'apercevoir tout simplement qu'on est nu, quelle que soit la justesse du combat, la grandeur des idées que l'on veut poursuivre. Alors, il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux, mais après il faut que nos yeux se tournent au bon endroit, que nous regardions au bon endroit. Ouvre mes yeux, je contemple les merveilles de ta loi. Et un texte qui résonne pour moi avec cela, tout à fait. Alors on passe de Genèse à l'Apocalypse, c'est un grand saut, tout à l'autre de la Bible. Au début de l'Apocalypse, vous savez, il y a les lettres qui sont écrites à des églises. Alors c'était sans doute des églises au moment où l'apôtre a écrit ça. Et puis ça prend pour nous un sens, évidemment, qui dépasse simplement le contexte historique où ça a été écrit. Et la dernière de ces églises, c'est à Laodicée, où il est dit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. » Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir vraiment riche, des vêtements blancs pour que tu sois vraiment vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois vraiment. Tu penses être riche, puissant, intelligent, fort, de maîtriser tout ce qui est ta vie et tout ce qui est la vie autour de toi. Et en fait, tu ne t'aperçois pas que tu as besoin, tout simplement, que le Seigneur prenne soin de toi et te donne ce qui te manque, la vraie richesse, des vêtements qui correspondent à ce que tu es, te soigner là où tes yeux sont aveugles et n'arrivent pas à voir, contempler les merveilles de la loi, ouvrir nos yeux selon que le Seigneur nous le donne, c'est aussi ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on est. Et donc, que le Seigneur nous donne de pouvoir voir ce qui se passe autour de nous, le monde dans lequel nous sommes, pas forcément juste pour le rejeter, le critiquer en disant que tout va mal. Il y a des choses qui ne vont pas bien, mais ce n'est pas original, ça a été vrai à tous les siècles. Mais pour savoir comment nous devons nous positionner dans ces combats-là, dans ces évolutions-là, que nos yeux soient vraiment ouverts pour aller rechercher ce que le Seigneur a vraiment en réserve. Vous savez, il y a des fois des choses étonnantes. Je lis les prophètes dans la traduction d'Alfred Kuhn, je crois que j'en ai déjà parlé plus ou moins ici, là. Je suis presque au bout, je suis à Habacuc. C'est long, Mais il y a des tas de prophètes qui annoncent que Dieu va se servir de choses mauvaises pour apprendre des leçons à son peuple. Et là, je suis en train d'attaquer Habacuc. Et entre autres, Habacuc, c'est ça. Les péchés du peuple sont revenus ça, et Dieu lui répond, « Ouais, mais je vais envoyer les Chaldéens, et tu vas voir, ils vont tout comprendre. » Alors Habacuc dit, « Mais Seigneur, comment tu peux utiliser les Chaldéens qui sont encore pires pour le faire ?» Et Dieu lui dit, « Oui, mais c'est parce que j'ai en réserve autre chose derrière. » Notre monde est ainsi fait, nos yeux sont ouverts, mais ils sont quand même limités. Et nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans le monde. Alors que le Seigneur peut vraiment nous donner d'avoir confiance en lui. Il est fidèle, ça nous a été dit ce matin, il est fidèle dans l'Église, mais il est fidèle tout court, si j'ose dire. C'est une de ces caractéristiques que nous croyons voir en Dieu, bien évidemment. Et ces deux textes que nous avons lus, et je vais terminer, ce texte fondateur de la Genèse, leurs yeux s'ouvrent, mais sur quoi? Sur leur nudité. Alors les pèlerins d'Emmaüs, il y a un chemin, mais leurs yeux s'ouvrent sur Jésus, sur la compréhension de tout ce que Jésus leur a raconté pendant ce long chemin, pendant ces 4 heures où ils ont marché ensemble, en discutaillant et en essayant d'analyser ce qui s'était passé dans les derniers jours à Jérusalem. Alors Jésus nous montre le chemin, et ça a déjà été dit aussi ce matin, par Arnaud, je crois, et la seule chose qui compte, c'est que nous puissions ouvrir nos yeux et que nos yeux soient centrés sur Jésus lui-même. Et je termine avec ce verset de l'Épître aux Hébreux. Nous-mêmes aussi, étant entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui va l'amener à la perfection. Voilà la seule chose qui compte, et que nous puissions à la fois demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux et surtout lui demander de les ouvrir dans la bonne direction, pour la bonne conséquence, et pour que cela puisse se traduire, comme ces disciples d'Emmaüs, par le désir de partager cela avec les gens avec lesquels nous vivons. Amen.